franceinter.fr.
Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
Retour d'abord sur le premier tour des législatives du côté des perdants.
On imagine le dialogue. Allô, c'est le président. Ah bon, lequel ? C'est le Parisien aujourd'hui en France qui raconte ce matin que François Hollande a passé sa journée de dimanche, soirée de dimanche, à réconforter les socialistes battus. Pas tous.
Ah bah oui, vous avez vu combien il y en a ? 95 députés sortants.
Alors il les a
battus.
Pas tous faits. Il a appelé tous ceux dont il pense qu'ils auront un rôle à jouer, dit un de ses interlocuteurs. L'un de ceux qu'il a eu en ligne a trouvé cette attention sympa. Il m'a rassuré, témoigne-t-il, en m'expliquant qu'il était impossible de résister et qu'il ne s'agissait pas de ma défaite personnelle. J'ai pas osé lui demander de qui c'était la défaite alors. L'ancien président ne s'en cache pas, il entend peser sur l'avenir de la France et sur la recomposition de la gauche. Comment, demande le journal ? Eh bien là, mystère. Mais un socialiste prophétise qu'il a 2022 en ligne de mire. Après tout, ajoute-t-il, Nicolas Sarkozy a aussi pensé qu'il pouvait renaître sur les ruines de son parti, conclut-il. Avec le succès que l'on sait, serait-on tenté de rappeler.
Un parti socialiste, on l'a dit, qui sort très affaibli à l'issue de ce premier tour.
Un désert de sable et de dunes, et ce titre à la une de Libération, la gauche, plus rien. Et les éléphants du PS n'ont pas été les seuls à être renvoyés au cimetière ou promis à une traversée du désert. Laure Breton donne la parole à la génération Hollande, justement, ces députés âgés de 30 à 40 ans qui avaient fait leur entrée à l'Assemblée en 2012, qui se retrouvent aujourd'hui sur le carreau, victimes de la vague En Marche. Ils sont convaincus d'avoir été la cible d'une stratégie tout à fait délibérée de la part du président de la République. Tous ceux qui pouvaient être appelés à jouer un rôle de premier plan dans les 5 ans qui viennent, tous ceux qui avaient fait railler d'une façon ou d'une autre contre la loi Macron numéro 1, tous ceux qui étaient jeunes ont eu affaire à des candidats de la République En Marche encore plus jeunes. L'ex-secrétaire d'État Pascal Boistard, éliminé dans la Somme, affirme que Macron veut tout écraser devant lui pour les 10 ans qui viennent, dit-elle. Najat Vallaud-Belkacem dans le Rhône paie son soutien indéfectible à Benoît Hamon pendant la présidentielle. Elle ne s'en est pas démarquée quand il a dit que Macron était le marchepied du Front National. Et le président a la mémoire longue, témoigne un de ses proches. L'ancien ministre de l'Intérieur, Mathias Fekl, éliminé, lui aussi se console. Il faut savoir perdre en étant en accord avec ses convictions plutôt que gagner en reniant ce à quoi on croit. Sur le long terme, saper, veut-il croire, visant ces socialistes qui sont officiellement ou officieusement devenus du jour au lendemain Macron compatible.
Débattu à gauche comme à droite qui vont devoir se reconvertir.
Député sortant cherche job désespérément, titre l'Opinion ce matin, qui raconte que dès dimanche soir, le député sortant LR, Hervé Mariton, a profité de son passage sur France 2 pour lancer « Je cherche du boulot, mon CV est prêt ». Même message pour l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti ou encore pour Benoît Hamon, également en quête d'un job. Ces profils ont une forte employabilité, assure un chasseur de tête. Ils ont un réseau, ils savent négocier, ils ont une notoriété. Alors les purs apparatchiks auront un peu plus de mal, mais ils pourront toujours bénéficier de la possibilité qui leur est offerte d'une équivalence pour devenir avocat. En attendant, souligne Fanny Guinochet, ces sortants ne seront pas démunis. Leur système d'indemnisation géré par la Caisse des dépôts et consignations reste avantageux. Pas de période de carence pour eux. Une allocation versée pendant 3 ans dont le montant s'élève à 100% de leur indemnité parlementaire au premier semestre, suivant leur défaite, soit 5 600 euros, pour finir à 20% au dernier semestre. Allocation dégressive donc, mais qui commence haut. Quand un chômeur du privé perçoit lui pendant 2 ans une allocation qui se limite maximum à 57% de son salaire brut. Reste que cette année, plus que lors des précédents scrutins, la concurrence va être rude, notent les professionnels du recrutement. Plan social, en quelque sorte, à l'Assemblée nationale.
Alors, il y a les battus, mais aussi ceux qui pourraient l'emporter dimanche prochain.
Celle qui pourrait l'emporter, car l'avons-nous assez dit. En tout cas, le Huffington Post nous le rappelle, 246 femmes sont arrivées en tête au premier tour. Il est possible qu'elles obtiennent 42% des sièges au Palais Bourbon. En 2012, elles en avaient obtenu près de 27. On s'achemine donc tout simplement vers un record historique qui nous placerait à la seconde place des pays européens en termes de parité derrière la Suède. Dans la Voix du Nord, quelques portraits de ces femmes, candidates de La République En Marche, qui pourraient devenir députées dimanche prochain. Brigitte Lizot, 4e circonscription du Nord. Au début, ça lui a fait bizarre, dit-elle, son visage affiché partout. Et puis elle s'y est fait. « Je sais que les gens ont plus voté pour La République En Marche que pour moi », reconnaît-elle sans embâge. Elle reconnaît aussi que ses adversaires connaissent mieux le terrain qu'elle, mais elle met en avant son parcours professionnel, son pragmatisme et son féminisme. Elle dit aussi « Je ne voterai jamais pour une loi avec laquelle je ne suis pas d'accord ». Jennifer de Temmerman, candidate dans la 15e circonscription du Nord, raconte que pendant la campagne, le député PS sortant s'est interrogé sur sa capacité à être député. quand d'autres ont demandé à son mari qui allait garder les enfants. C'est dingue, ça revient, c'est ce qu'elle dit. Elle dit aussi qu'elle n'est prête à aucun compromis avec ses convictions. Elle parle de mission, des mots tout simples finalement pour répondre à ceux qui s'inquiètent de leur aptitude à n'être que des godillots.
Il pourrait y avoir deux fois plus de femmes hein, en proportion.
On passe de 27 à 40 en
pourcentage. Dans la future assemblée. On termine avec un éditorial du New York Times et quelques photos.
Un édito pour appuyer les préoccupations de notre invité de ce matin. Titre « Les pouvoirs sans entrave » d'Emmanuel Macron. Le New York Times s'inquiète en effet lui aussi du futur projet de loi visant à consacrer certaines dispositions de l'état d'urgence dans le droit ordinaire. Le Conseil constitutionnel ne doit pas permettre de devenir permanent, ce qui devait être une suspension extraordinaire et temporaire de droits des citoyens. Sinon, met-il en garde, la promesse du nouveau départ de M. Macron pourrait aboutir à une République plus répressive et préparer la voie à d'autres abus du pouvoir exécutif au-delà de son mandat. Les photos, à la une des journaux américains notamment, mais aussi à retrouver sur le site du Monde, celles des arrestations hier à Moscou des manifestants russes à l'appel de l'opposant Alexei Navalny. Des ados, une toute jeunette en débardeur noir, dans le ciel un canard jaune gonflable, symbole de la corruption du pouvoir. Et puis les forces anti-émeutes, casquées, surarmées, qui pourchassent, matraquent, frappent à terre une génération qui n'a connu que Poutine et qui ose lui dire aujourd'hui « 17 ans au pouvoir, ça suffit ». Des photos qui montrent une nouvelle fois le choc de la confrontation entre les aspirations démocratiques et la violence brute d'un pouvoir. Et puis dans un tout autre contexte, je vous conseille la lecture et les photos de Jim Watson, photographe à l'AFP chargé des auditions au Congrès américain. La semaine dernière, il a été commis d'office pour aller assister à celle de James Comey, ex-directeur du FBI. Sur le making of de l'AFP, il raconte comment c'est une punition à chaque fois de devoir rester scotché des heures durant au pied du témoin dans un tout petit espace qu'on appelle le puits. Et puis comment c'est un sacré plaisir quand parfois on arrive à trouver la bonne posture, la bonne mimique, le bon cadrage. Exemple de photo à l'appui avec un Comey par exemple qui s'agite enfin quelques instants, quittant sa posture hiératique la semaine dernière, ou encore Hillary Clinton de dos, seule face à des hommes en colère en 2011. Des clichés donc à Moscou ou au cœur du pouvoir américain pour dire l'importance des photographes, évidemment, dans le travail journalistique.
Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse.